En direct de Montréal, voici le cabaret des acolytes.
Le spectacle va bientôt commencer!
On peut pas faire de magie, on peut pas les inventer, ces personnes-là.
Ça alors, pour une surprise, c'est tout une surprise. Bonjour les tout-petits!
Accueillez votre animateur pour le cabaret des acolytes, Jean-François.
Je vous souhaite la bienvenue à ce tout nouveau cabaret des acolytes. Le rideau s'ouvre sur la grande scène. On prit place autour de cette table, les fameux acolytes. Bonsoir tout le monde!
Bonsoir Jean-François! Bonsoir!
À chaque semaine, on vous prépare tout un cabaret autour d'un seul thème, un thème différent par émission, et je vais vous dévoiler ce thème dans quelques instants. Christine Gélina, Geneviève Proulx, Janelle Touchette et Juan Blasco, bienvenue à cette émission.
Bienvenue à toi Jean-François!
Avez-vous passé une bonne semaine, Janelle?
J'ai passé une excellente semaine avec le contexte de la pandémie. J'ai investi beaucoup d'énergie dans des choses positives, histoire de se donner un boost.
Oui, il en faut du boost. Merci beaucoup, Janelle. Christine, toi, t'as passé une belle semaine?
Une belle semaine, Jean-François. Comme Janelle, je me concentre sur le positif et je me laisse bercer par les vagues. J'espère que notre cabaret vous fera sourire, hein?
Mm-hmm. Juan, t'as passé une belle semaine?
Oui, Jean-François, une belle semaine. Ce soir, mon côté gourmand va me rendre attentif à la chronique de Geneviève et je vais tout de même vous parler un petit peu d'histoire québécoise.
Merci, Juan. Et toi, Geneviève, t'as passé une belle semaine?
Oui, disons succulente avec notre thème, justement.
Merci beaucoup, Geneviève. Alors, vous nous écoutez et vous nous aimez. Le meilleur moyen pour nous soutenir et vous nous démontrer votre affection, c'est d'aimer notre page Facebook. L'adresse Facebook, quelqu'un là autour de cette table?
Bien sûr, facebook.com/ le cabaret des acolytes.
Et Christine, ça c'était Janelle, mais Christine, qu'est-ce que ces gens gagnent en s'abonnant à notre page?
Et il gagne accès à toutes nos nouveautés, Jean-François, et nos précieux commentaires.
Bon! Alors, je reviens vers vous dans quelques secondes, les acolytes, le temps de présenter aux auditeurs le thème de notre cabaret. Pâte dure, pâte ferme, pâte semi-ferme, pâte molle, pâte fraîche, sans croûte, croûte blanche, croûte grise, croûte cendrée, croûte cirée. Cette semaine, on célèbre un produit que nos artisans d'ici maîtrisent depuis fort longtemps. Tout a commencé en 1643 avec le paillasson de l'île d'Orléans. 400 ans plus tard, ce sont plus de 700 petits frères qui ont vu le jour aux quatre coins de la planète. Nos artisans ont un penchant pour nommer leur fierté par le nom de célébrités bien de chez nous. Louis Cyr, Sœur Angèle, le curé Labelle, le curé Hébert, La Liberté pour le nom du sculpteur québécois, Hercule de Charlevoix, ou encore, ce sont des villes qui sont mises à l'honneur. On n'a qu'à penser à ce fameux Oka, le Péribonka, le Tom de Grosse-Île, le Kenogami, le Bleu d'Élisabeth. Et non, ce n'est pas la reine qu'on souligne ici, mais bien Sainte-Élisabeth de Warwick. On ne peut pas dire que nos artisans manquent d'originalité pour nommer notre vedette ce soir. En tête de liste de cette originalité, citons la fromagerie Alexis, de Portneuf avec son brise du matin. Alors, qui nous rappelle toutes les bonnes odeurs de notre vedette? Alors, vous l'aurez deviné ce soir, les acolytes vous font tout un cabaret autour du fromage du Québec et plus précisément, pour faire un clin d'œil à l'initiative des producteurs de lait du Québec, le fromage 17. Alors, je me retourne vers vous, les acolytes. Christine, celle qui, tout au long de ce cabaret, va nous accompagner par ses choix musicaux. Bonsoir, Christine. Cette semaine, c'est un super sujet qu'on a, mais si ça inspire notre palais, ça n'inspire pas nécessairement nos compositeurs. Il a fallu chercher fort, mais je ne doute pas que tu as trouvé quelques perles.
Oui, en effet, Jean-François, j'ai réussi à trouver quelques petites choses, effectivement, et je compte bien vous faire rire un peu avec ces chansons.
Bon, merci Christine. Janelle, pour ta part, le fromage d'ici, ça t'a fait penser à la poutine.
Oh my God, oui, la poutine, je connais personne qui aime pas ça. Puis, en fait, j'ai hâte de vous parler, j'ai découvert ça un peu, quelques faits inédits même sur la poutine. On s'en reparle tantôt.
Alors, merci Janelle. Geneviève, pour ta part, qu'est-ce que tu nous as préparé cette semaine sous le thème des fromages d'ici?
En fait, moi, Jean-François, je vais tenter de vous faire découvrir un de mes top 5 et par région et tout ça. Et juste à y penser, j'en salive déjà, j'ai bien hâte de vous en parler.
Merci Geneviève. Juan, pour ta part, de quoi vas-tu nous parler ce soir?
Alors ce soir, on s'en va ensemble pas très loin, dans la région d'Oka, pour voir comment les moines de cette région ont pu participer à l'essor du Québec.
Et moi, ce soir, je vais vous parler de deux livres. Un livre, c'est de Madame Dumontet, celle qui fait la roue de fortune. Et un autre livre, c'est du fromager Yannick, le fameux Yannick que vous connaissez, des fromageries Yannick. Donc, alors, ça démarre, les acolytes. Le cabaret est ouvert sous le thème des fromages du Québec. Et là, Christine va nous amener quelque part entre le Québec et un pays arabe, quelque part là-dedans dans sa musique. Allez!
Mon pays, c'est le pays des fromages. Ce pays, toi et moi, on le partage. Chacun son petit morceau et sa part du gâteau. Pourvu qu'on fasse un beau plat d'eau. Pourvu qu'on fasse un beau plat d'eau.
Un beau plateau, qu'est-ce que c'est ça?
Alors, on écoutait Tom Nardone et les Salgones, la chanson « Le pays des fromages ». En fait, cette semaine sur Facebook, on vous a demandé de nous nommer votre meilleure fromagerie. On a eu quelques réponses. Patrick, entre autres, la fromagerie Roy dans le coin de Rawdon. Jean-François qui nous a nommé la fromagerie Fritz Kaiser à Noah. C'est une ville dans le coin, écoutez, près de Lapierreville, dans ces eaux-là. Émilie, la fromagerie de la station dans la région des Cantons de l'Est. Puis je me tourne vers vous, les acolytes. De votre côté, votre meilleure fromagerie?
Oh mon Dieu!
Qui veut parler?
Ben, c'est sûr que la fromagerie Amel est un classique. Là. Probablement que je vole la réponse de quelqu'un ici, là, sûrement.
En tout cas, la mienne, Geneviève.
Moi, je vais opter pour, parce que c'est dur de faire un choix, mais je vais y aller avec la fromagerie Lemon, dont je vais aussi vous parler d'un de ses fromages tantôt, entre autres.
Moi, je vais y aller avec Cavallero, une fromagerie de West Island, en fait, à laquelle on peut trouver plusieurs produits italiens, dont aussi des fromages québécois.
Et dans l'ouest de l'île et partout, il y a aussi la fromagerie Yannick, comme je le disais en introduction.
Oui. La fromagerie Atwater, au marché Atwater. Hein? Quand on rentre dans les différents marchés, on dirait que on a envie d'aller vers la fine cuisine, d'aller chercher un bon fromage, d'aller chercher un bon pain, d'aller chercher une bonne pâtisserie. Alors, il y en a tout plein. Voilà. Et comme j'ai eu cette chanson dans la tête toute la semaine, je me propose de vous la relancer dans quelques secondes.
Et mental, Saint-Paulin, bleu de Bresse, Bria Savarin, chacun son petit caractère. Mais ensemble on fait l'affaire. Les cendrés, les colorés, la richesse et la variété.
Merci Christine, on revient plus tard à toi dans l'émission avec d'autres musiques et chansons. Deux mots pour vous dire que ce balado est rendu possible grâce à Balado Québec. On les remercie. Le cabaret des acolytes est disponible chez eux, mais aussi sur Spotify, Apple, Google et la plupart des plateformes de podcast. Alors, on poursuit ce cabaret sous le thème des fromages d'Icit et je me tourne vers Geneviève. Geneviève, tu vas nous faire ton top 5 de tes fromages du Québec. Et pour introduire ton premier fromage, voilà, qui est intéressant, je vais vous faire une petite citation de notre Félix National. « Nos vies ressemblent à des rivières. Les calmes sont profondes, les agités coulent en surface. »
Merci, wow. Jean-François. Oui, c'est magnifique. Et oui. En fait, cette citation de Félix Leclerc a inspiré le créateur du fromage, le Picoba. En effet, c'est un fromage qui provient d'une de mes régions favorites. Vous l'avez peut-être décelé, le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Mm-hmm. Et bien sûr, il doit son nom s'est inspiré son nom de cette citation-là, mais bien sûr aussi de la rivière qui traverse le parc des Laurentides, la Picoba. Donc, qu'est-ce que c'est le Picoba? C'est une pâte semi-ferme, jaune dorée, sous une croûte mince orangée. Il est parfait, ce fromage-là, ni trop capiteux, ni trop faible. Il goûte les noisettes avec des arômes fruités. Puis c'est ça, il est conçu par la fromagerie justement que j'ai nommée tantôt, Christine, à ta question, la fromagerie Lehmann, qui tant qu'à moi offre une sélection des plus exquises à découvrir si ce n'est pas déjà fait de votre côté. J'aurais pu réellement y faire mon top 5 juste avec, en fait, cette fromagerie-là, mais on en a tellement d'autres de bonnes. Je voulais faire découvrir une certaine variété, mais ils ont vraiment une sélection extraordinaire.
Est-ce qu'il est difficile à trouver, Geneviève, ce fromage? Est-ce qu'on peut le trouver un peu partout ou il est vraiment très précisément à certains endroits?
Bien, normalement, là, on peut quand même le retrouver en épicerie, OK, pour ceux qui ont moins de marché à leur disposition. C'est certain pour les gens qui ont des Amel qu'on a nommé tantôt et tout ça, on peut trouver ça partout. Le Cavallero aussi, Juan, que tu nommais tantôt, il l'offre également. Donc, oui, assez facilement retrouvable.
OK, merci.
Il est très, très bon. Avec plaisir.
Ton deuxième du top 5.
Oui, alors mon deuxième, c'est le Riopel de l'île aux Grues.
Ben oui.
C'est
oui.
Bon, le Riopel.
Bon, vraiment, vraiment très, très bon. Donc, Chaudière-Appalaches, là, comme secteur, comme région. Vous aurez sûrement figuré qu'il fait hommage au célèbre peintre Jean-Paul Riopel, qui habita à l'île aux Grues durant une vingtaine d'années il finissait ses jours, en fait, finissait ses jours dans ce paradis terrestre, en quelque sorte. Donc, par ailleurs, même l'emballage de ce fromage reprend aussi l'une de ces toiles célèbres à notre Jean-Paul Riopel.
Ah, je n'avais pas remarqué. Je vais faire attention la prochaine fois.
Oui, c'est très, très beau. Vous prendrez le temps d'observer. C'est un savoureux triple crème, parfois crayeux, selon sa maturité, évidemment. C'est vraiment là un parfait équilibre en sel. C'est presque littéralement une crème fromagée salée, délicieux, probablement un des fromages les plus ronds et onctueux du Québec. Je l'aime vraiment beaucoup.
Wow, Geneviève, tu l'as décrit avec tellement de passion, ça me fait quasiment saliver.
Moi, je salive.
Oui, c'est...
tant mieux, vous irez vous en chercher un petit bout là, après le podcast. Là.
Et ton troisième, donc, Geneviève?
Oui, donc cette fois-ci, je tente de vous faire saliver sur un bleu parce que je sais que ça ne fait pas l'unanimité, mais je ne pouvais pas contourner ce bleu-là qui est parfait, mais vraiment le choix parfait pour justement un débutant. Donc, si vous n'êtes pas amateur de bleu, mais que vous aimez parfois, chaque année, vous laisser une chance de nouveau pour développer vos papilles, voir votre évolution, où vous en êtes et tout ça, c'est vraiment avec le bleu brie de la fromagerie de Alexis de Portneuf, dont on parlait justement aussi tantôt, là, de Saint-Raymond. Donc, comme le Riopel, le bleu brie, c'est aussi un triple crème. Mais persillé. Alors, imaginez-vous un bout de crème avec une teneur en sel agréable qui laisse subtilement jaillir quelques arômes de bleu. Mmh. C'est vraiment la parfaite transition vers les bleus. Mais pour les amateurs aguerris de bleu, mon choix se tourne vers le ciel de Charlevoix.
Ah oui, on l'aime.
On adore ça. On en a parlé un petit peu aussi précédemment. Charlevoix, c'est tellement un endroit délicieux à tout point de vue. J'adore vraiment cette région-là. Alors, donc c'est ça. Le ciel de Charlevoix, c'est de la famille Migneron, pardon, du même endroit. C'est un magnifique produit, évidemment persillé d'un bleu profond, vraiment, d'apparence ferme. Mais il est pourtant crémeux quand même en bouche. Alors, c'est vraiment onctueux. Son goût est légèrement anisé. Il miroite le carvi qui borde les prés de Baie-Saint-Paul. Tout ça balancé par une sanilité référée par la mer qui, non loin des champs, caractérise ce terroir exceptionnel, à mon avis.
Mon Dieu, ta verbe, Geneviève.
C'est très poétique.
T'es bien bonne.
Ça peut arriver.
Là, j'avais de la misère avec mes doigts. T'es rendu à 4 ou 5, là?
Je m'en vais vers le 5e, okay. Choix, j'entends ça.
Donc, vas-y avec ton 5e.
Parfait. Donc, j'adore Charlevoix, mais je termine mon top 5, justement, dans un autre endroit que j'affectionne énormément, qui est l'Estrie. Je vous parle maintenant du Alfred Le Fermier de la dite fromagerie La Station, qu'on a aussi parlé tantôt, on l'a cité. Alors, ce délicieux Alfred est ferme, avec une croûte pêche aux arômes de sous-bois et de champignons. Sa pâte jaune dorée dégage des arômes de fruits confits et de noisettes avec une touche rustique. Alfred est aussi cru et biologique, donc qui est bon pour notre flore intestinale. On peut alors en consommer quotidiennement sans culpabiliser.
J'aime ça.
Moi aussi, définitivement. Sur ces belles paroles, soyez en santé et dégustez tout ça. Bon appétit.
Merci beaucoup, Jen.
Merci, Geneviève.
Hit the Monterey Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the Monterey Jack, and don't you come back no more. What you share? Tu la, tu la, mozzarella.
Oh, c'est bon, hein?
Oui, c'est bon.
Wow.
On écoutait, c'est une compilation d'Arnaud Soli et de Marilyn Jonca, deux humoristes québécois qui sont très actifs sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, c'est un clip YouTube que je vais vous mettre en lien pour ceux qui auront aimé notre page Facebook, pour que vous puissiez aller voir. C'est vraiment très drôle. Alors, c'est des jeux de mots avec les fromages sur des chansons. Il y en a tout plein. Avez-vous déjà fait ça, créer des chansons avec le nom ou de quelqu'un, par exemple?
Non, jamais. Toi, Christine, as-tu déjà créé des chansons?
Moi, je me souviens, il y a quelques années, dans une équipe de travail, on devait être une dizaine. J'avais, avec les chansons de la compagnie créole, pour chacun de mes collègues de travail, j'avais une chanson pour le nom ou le prénom. Donc,
Est-ce que tu as enregistré ça? As-tu enregistré ça, Christine?
Ah, c'est pour une prochaine fois. On n'était pas dans l'air des enregistrements à ce moment-là.
J'avoue que j'ai peut-être déjà fait ça, moi aussi, avec mon collègue Jimmy. Oui.
Vous êtes enregistré des...
Non, je ne l'ai pas enregistré, mais c'est une chanson que je lui chantais régulièrement en changeant, oui. Oui, avec son nom.
Est-ce qu'on a une écoute
de la chanson? Lambada.
Oui, voilà.
Christine, on écoute un autre petit bout de la compilation de chansons de
fromage. C'est tellement bon.
Allez.
J'ai dans tout. J'ai dans tout. La fleur de vie, les amours. I got you, baby. Oh yeah, baby, I don't need the bills to have fun tonight. I love cheese with me. I don't
bon, allez, on poursuit ce
cabaret.
On poursuit ce cabaret des acolytes et je me tourne vers Juan maintenant. Alors, notre architecte de l'histoire. Juan, comment parler des fromages du Québec sans aborder l'histoire de l'abbaye d'Oka? Cette abbaye qui a grandement contribué à la tradition québécoise fromagère. Ce n'est plus aujourd'hui une abbaye, du moins il n'y a plus de moines ou de religieux qui y vivent depuis quelques années. Tu es allé au fond de l'histoire, Juan, de l'abbaye d'Oka.
Oui, Jean-François, en effet, comme tu le disais, la vie monastique de l'abbaye Notre-Dame-du-Lac n'est plus depuis 2009. En fait, les moines l'avaient annoncé 6 ans plus tôt, en 2003. L'expansion urbaine aurait eu raison de leur tranquillité, les empêchant ainsi de vivre selon les préceptes de leur saint qui est Saint-Benoît.
Dans le calme.
C'est ça, dans le calme, puis en fait, dans une journée qui est vraiment rythmée avec différentes phases, une journée qui commence à 8 heures, qui se termine le soir avec des prières pendant la nuit et du travail pendant la journée. Mais cela dit, petit retour en arrière, chers acolytes, pour voir un petit peu l'histoire de ces moines trappistes puis de ce qu'ils ont apporté au Québec, on va remonter au temps de la Révolution française pour commencer. En quelle année, la Révolution française?
1789!
Bravo, Jean-François, c'est une bonne réponse. Bon, tout le monde l'avait probablement, mais...
Oui.
On sait jamais. On sait jamais. Moi, ça m'arrive avec toutes les dates d'en perdre. Donc, en fait, c'est au moment de la Révolution française que les moines de l'ordre cistercien, qui sont en fait une congrégation religieuse qui vivent, comme je le disais, selon les préceptes de Saint Benoît. Saint Benoît qui a vécu de 487 à 547, donc qui est assez... c'était vraiment il y a très, très longtemps. Mmh. Bien, au moment de la Révolution française, ils sont expulsés de France comme tous les monastères de France, en fait. Les Français ne voulaient plus rien avoir à faire avec Dieu et donc ils ont demandé à fermer tous les monastères.
Ils ont eu peur.
Exactement. Ils décident donc de s'établir à l'étranger et plus précisément, ils se disent ben, pourquoi pas aller vivre en Nouvelle-France puisque c'est un terrain connu. Et puis là-bas, en fait... le catholicisme est quand même assez répandu, donc on devrait avoir une belle vie. Ils font une demande à l'évêque de Québec. Malheureusement, c'est un refus. Donc, leur route s'arrête en Belgique jusqu'en 1814. Et là, après, ils reviennent en France où ils vont occuper l'abbaye de Soligny. L'abbaye de Soligny s'appelle en fait la Trappe pour les personnes qui habitent très proches. En fait, il semble qu'en 1140, dans cette abbaye, il y avait une grande trappe qui menait à un étang. Puis c'est important, ce mot-là. Donc, c'est la trappe en deux mots. Elle a plus loin, trappe, comme une trappe qu'on va pour ouvrir une cave dans le sol, en fait. Il semblerait que dans cette abbaye, il y avait une trappe qui a donné le nom à cette abbaye, mais aussi, et par la suite, à toutes les abbayes que cet ordre a finalement occupé. Donc, les moines trappistes.
Ben oui, c'est ça.
C'est ça.
Incroyable.
Ça vient de là. Donc, partout où ils se sont installés, ils ont apporté ce nom-là avec eux, dans plusieurs abbayes de France, mais aussi ici au Québec, et un peu plus tard, bien entendu, puisqu'ils sont arrivés un peu plus tard. Donc, il faut savoir que les trappistes sont des moines qui sont très rigoureux, qui suivent avec précision et dévotion les préceptes de Saint Benoît, parmi lesquels, comme je le disais tout à l'heure, un travail manuel pendant un temps précis à chaque jour. Donc déjà au début du 19e siècle en France, les trappistes achetaient alors le lait cru aux paysans aux alentours de leur abbaye et en faisaient du fromage, originellement à l'abbaye de Notre-Dame du Port-Salut en Mayenne, dans les Pays de la Loire, donc en France. Vous avez entendu prononcer le mot Port-Salut, vous le savez, c'est un fromage, c'est en fait l'ancêtre du fromage d'Oka qu'on connaît aujourd'hui.
Oui.
OK. Ouais. Donc, l'histoire se poursuit. En 1880, on arrive à un moment où les soldats français menacent de nouveau d'expulser les moines trappistes de France. Et là, c'est l'évêque de Québec qui finalement envoie une invitation aux moines trappistes de France. Et le 11 avril 1881, par une journée très enneigée, probablement que de mémoire de trappistes on n'avait jamais vu, l'aventure québécoise débute. Précédés par leur grande réputation d'agriculteurs, ils sont alors convoqués par le curé Labelle, donc notre grand organisateur du Nord, le 24 avril de cette même année, donc pas très longtemps après leur arrivée, dans une rencontre qui a lieu à Sainte-Thérèse et qui va changer le cours du siècle suivant au Québec. Donc, en effet, comme résultat de cette rencontre, seulement deux semaines plus tard, le 3 mai 1881, pour être précis, le travail des trappistes peut débuter sur 1000 arpents de terre, généreusement donnés par les Saint-Sulpiciens à la demande du curé Labelle aux moines trappistes. Donc là, ils n'ont pas d'outils. Tout ce qu'ils ont, ce sont leurs mains, leur courage, leur foi. Et ils se mettent au travail. Et dès novembre 1881, ils ont un premier monastère de l'abbaye de Notre-Dame-du-Lac, donc l'abbaye d'Oka, qui est construit. Une première trappe.
Et c'est de là que vient l'histoire « Ferme ta trappe puis travaille ».
Peut-être, peut-être. « Ferme ta trappe, Jean-François ». Mais leur rêve, en fait, c'était d'ouvrir une école d'agriculture et de former des futurs agriculteurs pour répandre leur savoir et faire prospérer leurs environs. C'est donc ce qu'ils font. Ils commencent par trois élèves qui sont formés, qui viennent d'une autre congrégation religieuse. Et peu à peu, leur réputation s'installe. En 1893, on parle d'une école d'agriculture, donc juste 12 ans après leur établissement. 15 ans plus tard, en 1908, cette école d'agriculture se transforme en l'Institut agricole d'Oka, qui est déjà une faculté universitaire à l'époque, qui est affiliée à l'Université de Laval. Mmh. Au cours de l'histoire, l'abbaye brûle plusieurs fois. Elle est reconstruite, bien entendu. Sa contribution à l'essor local est colossale. Comme toutes les actions menées par le curé Labelle, en fait, le fait d'investir ces 1000 arpents de terre dans ces moines a transformé le Québec, puisque des milliers de Québécois se sont fait former par ces moines au cours du siècle dernier. On parle d'un institut qui revêt plusieurs facettes, dont l'apprentissage de la ferme, mais aussi des insectes et aussi une école vétérinaire. Pour financer le tout, des produits de l'agriculture, bien entendu, dont le fromage, mais pas seulement. L'ampleur était telle, en fait, qu'en 1930, les trappistes s'engagent à continuer leur enseignement pour au moins 30 ans en échange de 300 000 $ offerts par le gouvernement. Pour l'époque, c'est une somme qui est énorme. Wow. Donc, cet argent est investi essentiellement pour rénover les locaux. Il faut savoir que les trappistes ont toujours voulu et se sont toujours forcés à enseigner en français. Ils sont également à la pointe des techniques vétérinaires. Et bref, ils ont placé le Québec francophone sur la map, comme on peut dire en bon français. Donc, ils ont finalement contribué à façonner notre beau Québec qu'on connaît aujourd'hui. Ils ont créé le fromage d'Oka, comme je vous l'ai dit tantôt, qui est en fait un port-salut qui a évolué façon Nouvelle-France. En fait, déjà en 1886, donc juste 5 ans après leur arrivée, le port-salut d'Oka se rendait sur des étagères d'épicerie sur la rue Saint-Jean à Québec. À l'époque, c'est tout de même assez considérable, car c'est une bonne distance.
Ouais.
En fait, aujourd'hui, le Oka, c'est un onomatisme. Donc, c'est un nom propre qui a donné son nom à un produit qui est en fait du port-salut dans ce cas-ci, qui a évolué sous sa forme Nouvelle-France et que j'aime beaucoup d'ailleurs. Et ma variante préférée, c'est le Oka artisan.
Merci, Juan.
Que vous les avez reconnus.
Oui,
bleu pas du tout.
Jeans bleu.
Avec les R.
Oui. En fait, ils ont rapporté le Félix du meilleur groupe de l'année au Gala de la Disque l'année passée, en 2019. En début de confinement l'année passée, Claude Cobra, le chanteur, nous a lancé un défi pour son prochain vidéoclip qu'on ne savait pas quel vidéoclip c'était. Et il nous a lancé un défi de nous filmer en dansant. Il a repris tout ça. Et vous pouvez maintenant aller voir le clip de la danse en ligne. Vous allez voir, c'est cool. Chacun d'entre nous en confinement qui dansons sur le clip.
Donc, on danse en ligne. C'est un jeu de mots? On danse en ligne, sur les internets?
De l'intelligence de Claude Cobra, je pense que ça devait être pensé comme ça, effectivement.
C'est ça qu'être confiné.
Justement, en début de clip, on peut lire la préface suivante. Tant qu'à être confiné, dansons le twist jusqu'à ce que bonheur s'en suive. Oh. Là, je savais que Janelle allait parler de la poutine et je ne pouvais passer à côté de cette prochaine chanson.
Chanson que j'adore.
J'ai mangé trop de patates.
Alors, on poursuit ce cabaret des acolytes et je me tourne vers Janelle. Qu'elle soit nature, agrémentée de saucisses, d'oignons, de viande hachée ou de foie gras, la poutine est résolument ancrée dans la culture québécoise
effectivement, Jeff. Guys, là, on va parler de poutine. Ça va être plus sérieux. Non, c'est pas du tout vrai. On va parler de poutine. La poutine a longtemps été mal aimée dans les médias et aux yeux d'une certaine intelligentsia. Elle était synonyme de malbouffe sans intérêt gustatif, associée au cliché du Québec prolétaire, mais les jeunes générations s'en régalent sans gêne, la voient même comme une source de fierté, sinon un symbole identitaire.
Ben, clairement.
Moi, je m'identifie à ça, en tout cas. En faisant mes recherches, j'ai découvert les origines sont assez controversées de la poutine. J'étais curieuse de voir aussi si ça a commencé, cette histoire. Donc, en provenance... la provenance la plus probable de la poutine serait Drummondville.
Ouais, t'es dans des terrains très glissants. Hein,
oui, là, je vais faire attention à mes mots, justement, pour essayer de relater les faits correctement. Donc, le restaurant Le Roi Giuseppe, Bon, on va y aller comme ça. Le roi Giuseppe s'y présente en tout cas comme étant l'inventeur de la poutine. En 1998, le terme, entre guillemets, « inventeur de la poutine » fut déposé à l'Office de la propriété intellectuelle du Canada. Il ne s'agissait pas d'un brevet d'invention, puisque les recettes ne peuvent pas être brevetées au Canada, mais il n'en demeure pas moins que la symbolique est puissante et que la documentation qui soutient ce titre est rigoureuse. Mm-hmm. Ouais. Jean-Paul Roy, propriétaire du restaurant en 1964, serait le premier à avoir servi la poutine comme on la connaît aujourd'hui, c'est-à-dire patates frites, fromage et sauce. Donc, le nom viendrait d'un mélange de déformation du mot anglais « pudding » et le surnom du cuisinier « tiput ».
Ah ouais?
Ouais. Jean-Paul Roy. Ah,
c'est n'importe quoi.
Jean-Paul Roy est décédé en août 2007 à Drummondville. Le brevet officiellement octroyé par le gouvernement du fédéral canadien est affiché fièrement dans le restaurant. Mais là, c'est là que...
Tous ne sont pas d'accord.
C'est ça, tous ne sont pas d'accord. Le titre véritable père de la poutine ancienne appartient, selon toute vraisemblance, à Fernand Lachance et à sa femme en provenance du village de Warwick. Selon la légende, un client, Eddie Lennes, aurait demandé en 1957 au propriétaire de mélanger les frites et le fromage dans du même sac. Donc, le propriétaire déclara ça va faire toute une poutine, ce mélange-là. Ah. Ouais, ainsi, en 1957, le terme « poutine » aurait été mentionné pour la première fois et leur établissement fut le premier à ajouter la poutine sur leur menu et c'était 13 ans avant la poutine de M. Roy. Donc, d'où les terrains glissants.
C'est l'œuf et la poule quand même.
C'est ça. En tout cas, moi, j'ai été très, très... ça m'a intéressé, ça. J'étais bien contente d'apprendre ça. Donc, là, aujourd'hui, on connaît plusieurs variantes à la poutine. Nous avons tous notre préféré. Certains restaurants en proposent même plus d'une centaine. On pense à la banquise effectivement.
Ah, oui.
Oui. Ouais. Bien que certaines variantes sont typiquement régionales, les plus connues sont la poutine italienne avec la sauce à spaghetti.
Je ne comprends pas celle-là, mais ce n'est pas grave.
Tu comprends? Bien, c'est un peu... oui, effectivement, c'est un peu... on est un peu dans le côté exotique de la poutine avec la sauce à spaghette. La Western, qui est une poutine conventionnelle à laquelle on a ajouté des saucisses, le steak haché, la poutine smoked meat, la poutine toute garnie avec des oignons verts, des champignons préalablement revenus à la poêle, la poutine au foie gras, associé au chef Martin Picard.
Encore une fois, bing, bing! On parle de Martin Picard!
Ding, ding, ding! De bien!
Love always.
La poutine barbecue avec du poulet, la poutine au canard confit. Puis les plus funky ont introduit la guacamole, des olives, des merguez, du porc effiloché et j'en passe.
Ah, la guacamole, ça va. Ah, c'est quoi ça?
Ouais. Ah, c'est tellement bon.
Ouais, poutine avec la guacamole, j'adore ça. Pas avec la poutine.
J'adore la poutine, j'adore ça.
T'en as déjà goûté?
Pas moi,
bien
en tout cas.
Sûr.
Ah oui, en tout cas.
Tu nous en feras la prochaine fois.
Oui. Je reviens au fromage. Qu'est-ce que ça serait, dans le fond, quelle serait notre poutine sans un fromage en grain? Fromage en grain, fromage en crotte, fromage squick, 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 selon le bruit que le fromage fait sous la dent. C'est un fromage cheddar, caillé, frais. Il s'agit simplement d'un fromage cheddar qui n'a pas subi de pressage. Donc, j'ai regardé sur Internet. Il semblerait que les deux fromageries les plus populaires pour le fromage en crotte sont la fromagerie Le Maire à Saint-Germain-de-Grand-Am et la fromagerie Boivin à la Baie, qui est très, très populaire, la fromagerie Boivin.
Mm-hmm. Ouais. Ah oui.
On a toujours un petit débat là, de la poutine. Est-ce que c'est une vraie poutine quand c'est du fromage râpé versus du fromage en grain?
Non,
c'est ça.
Non, c'est pas une vraie poutine.
Ça n'a pas rapport.
C'est fake.
Ça prend du squish-squish.
Squish-squish, c'est ça.
Ah, mais attends, je veux juste revenir aux fromageries, Janelle. Là. Il y en a quand même plein d'autres.
Oui,
la Saint-Guillaume, il me semble que c'est celle-là que je vois moi souvent.
Il y en a plein d'autres, effectivement, mais ce que j'ai vu, c'était beaucoup ces deux-là qui ressortaient.
Okay.
Ouais, exact. En début de chronique, je mentionnais la popularité de la poutine. On y voit plusieurs food truck festivals apparaître. Le plus connu est sans doute le Festival de la poutine de Drummondville, justement, qui se tient normalement à la fin de chaque été, mais cette année a été remis vu la pandémie. Donc, ça sera un rendez-vous pour tout le monde en 2021.
C'est pas d'ailleurs les trois accords qui sont les organisateurs de ça?
Ou en tout cas, le headlight. Là,
ouais.
Puis, je vous ai promis des faits cocasses, méconnus, inédits de la poutine. poutine. Alors, j'y vais en rafale.
Vas-y.
Oui, donc la province de Terre-Neuve a sa propre poutine. Guys, plusieurs restaurants, ils servent une poutine composée de frites, de sauce et de farce de dinde.
De farce de dinde.
Ensuite, on peut boire de la poutine. On parle pas ici de tout réduire en boîte avec un robot culinaire. On parle de la marque Jones Soda qui produit une boisson gazeuse à saveur de sauce et de fromage.
Non.
Oui, oui, oui. La poutine est reconnue comme l'une des plus grandes inventions du Canada selon le réseau CBC en 2007. Elle arrive en 10e position en avance sur le BlackBerry et le Bloody Caesar.
Oh. Ça, c'est bon.
La prochaine, elle va être... vous aurez des images. Le record Guinness 2015 de la plus grosse poutine appartient à Trois-Rivières. Aux dernières nouvelles, celle-ci a été cuisinée par Planète Poutine. Au final, elle pesait plus de 4410 livres.
Ça, c'est 4 tonnes.
C'est 4 tonnes de poutine de fromage. Oui. Oh là là.
Il y a bien des ponts au Québec que cette poutine ne peut pas traverser.
La ville de Chicago, aux États-Unis, a son propre Poutine Fest. Il y a moins de calories dans une Mac Poutine que dans un Big Mac, mais à peine.
Mais moi, je l'aime, la Mac Poutine.
Puis, la poutine la plus dispendieuse du monde serait en Ontario. Lors du Brockville Poutine Fest en mars 2016, on servait une poutine monstrueuse à 70$ contenant, attention, oignons caramélisés, bœuf, bison, poulet, foie gras, œufs frits, champignons sautés, fromage boursin, brie, fromage de chèvre, bacon, piment jalapenos, huile de truffe, mayonnaise de truffe, sauce barbecue, noix et échalotes.
Dans le fond, ils ont toutes mis.
J'ai mal au foie.
Je peux pas finir ma chronique, guys, en vous demandant, pour finir rapidement, votre meilleur spot pour manger la meilleure poutine.
Oh! Ben moi, c'est la banquise, tu l'as dit.
La banquise.
Ouais.
OK, ben moi, je connais un petit chac en fait à Belle-Oeil. Alors, il n'y en a pas 15 000, je ne pourrais pas dire vraiment Saint-Mathieu de Belle-Oeil, pardon. Alors, eux autres, là, ils mettent du fromage partout, plusieurs étages. Et ma préférée, c'est celle qu'on nomme le hamburger renversé.
Oh!
Miam!
Oh! Oh. Ça sonne cochon, ça.
Juanito?
Moi, c'était plus Poutineville, en fait.
Ah oui, bon, OK.
C'est bon.
Oui. Marc-Christine? C'est
n'importe quelle poutine à la sortie des bars.
Ah oui? Ah oui, c'est vrai. Donc, voilà.
Merci beaucoup, Janelle. Ça faisait longtemps qu'à l'émission, on n'avait pas entendu Passe-Partout. Qu'est-ce que c'est?
Ouais.
Je ne pouvais pas passer à côté parce que toute la semaine, en préparant l'émission, je disais « Notre thème, c'est le fromage ». Tout le monde me dit « Ah, tu vas mettre j'ai du bon fromage au lait ». Alors, je ne pouvais pas passer à côté. Je ne vous parlais pas de cette belle génération qui est la mienne, hein, la génération Passe-Partout. Mais je vais vous parler, justement dans cet épisode-là où on entend « J'ai du bon fromage », on voit Pascaro visiter un fabricant de fromage et on voit Pascaro prendre une meule de fromage et la sentir, ouais. La nettoyer. Si je me souviens bien, j'avais donc envie de croquer dans le fromage. Il me semble que ça...
Une bonne
aussi!
À pleine dent!
Pardon?
À pleine dent! Croquer dans la meule de fromage à pleine dent!
Merci beaucoup, Christine. Pour ma part, cette semaine, je vous parle de deux livres qui m'ont fait découvrir des fromages de chez nous et des fromageries, Christine, que je visiterai plus tard cette année, après la COVID. Alors, le premier livre, ça m'a étonné. J'en ai ri un petit peu. C'est Annick Dumontet qui...
Une recherche bien sérieuse t'a menée.
Mais le livre est sérieux. Attendez, le livre est sérieux pour vrai. Mais ça m'a juste fait rire le contexte de ce livre. Oui. En fait, c'est que... Annick Dumontet fait la roue de fortune. Hein? Oui. Et parce
c'est
que
la même.
C'est la même. C'est la même dame qui fait la roue de fortune. C'est celle-là qui écrit ce livre-là. Et donc, mais le prétexte, c'est qu'elle visite, en faisant la roue de fortune, elle visite nos régions. Donc, elle en a profité pour visiter également les fromageries. Et dans son livre, Mordu de fromage, c'est le titre, aux éditions La Semaine. Alors, elle nous présente 70 recettes de fromage et à l'intérieur de ces recettes, elle nous propose des fromages québécois qu'on peut mettre, mais on peut aussi substituer par n'importe quel fromage. C'est un peu le elle nous propose un fromage à mettre. Et d'ailleurs, elle pose la question au début de son livre, si on doit manger ou non la croûte. Et vous, est-ce que vous voulez manger la croûte?
Ben oui!
Mais ça dépend du fromage.
Ah oui,
mais
Juan, je savais que c'était ça ta réponse. Certainement pas que tu la manges tout le temps, hein?
Une pâte molle, oui, je vais la manger tout le temps, mais une pâte, mettons que la cire alimentaire, si c'est juste la cire alimentaire, ça ne m'intéresse pas, je ne la mangerai pas.
Ah ben non, c'est ça, exactement. Ce ne sont pas toutes les croûtes qui se mangent, mais la plupart des croûtes se mangent, croûte fleurie, croûte lavée, croûte persillée, croûte pressée non cuite, les croûtes molles. Alors, il faut comprendre que dans la plupart des croûtes...
Baby bombelle, ça se mange?
Non, ça c'est une croûte cirée, ça ne se mange pas. Ah.
Baby Bell, hein?
Non. Mais est-ce que vous mangez la croûte de l'emmental ou du gruyère ou du parmesan?
En fait, je la mange pas intégralement. Je vais l'incorporer à des sauces, à des soupes, des choses comme ça. Mais il y a une recette que j'ai trouvée de croûte de parmesan qui fait... On peut mettre au micro-ondes, ça fait un peu comme du popcorn parmesan, si on veut.
Ah, je connais pas. OK. Ben, tu la mettras sur Facebook. Hein?
Très bien.
Je te donnerai l'adresse de notre groupe, Geneviève.
Très bien.
Alors, c'est la bonne réponse. Là. En fait, la croûte du parmesan, là, on peut penser qu'elle ne se mange pas, mais elle se mange. Et c'est très, très dur pour les dents. Donc, on ne la mange pas comme ça. On peut l'incorporer à des soupes, comme Geneviève le dit. Et la plupart, les croûtes qui sont bonnes pour la poubelle, ce sont les croûtes qui sont recouvertes. Christine, tu l'as dit, là, un exemple, Babybel. Donc, Babybel, c'est ça le nom, Babybel? Une couche de paraffine ou de cire, ça, on jette ça à la poubelle. Le deuxième livre que je vais vous parler, alors, c'est un très bon livre, soit dit en passant. Là, il y a 70 belles recettes et ça nous fait découvrir les fromages du Québec.
Mais moi, je trouve ça vraiment le fun qu'elle ait pris le temps, dans tous ses voyages, de visiter des choses à côté, puis de nous en faire part dans un livre qui a l'air quand même assez beau.
Vraiment?
Oui. Le deuxième livre présente les fromages du Québec, mais aussi de partout ailleurs, et ça nous permet de situer notre gastronomie fromagère parmi l'éventail qui est offert à travers le monde. Et l'auteur, c'est pas n'importe qui, c'est l'auteur des fromageries Yannick, donc Yannick Hachim, et le livre s'intitule « Les fromages, l'art de choisir, de présenter et de déguster ». Il nous présente plein de facettes du fromage et j'ai le goût de vous en présenter quelques-unes. On parle de pâte fraîche, pâte molle, pâte semi-fraîche, bon, etc. Mais savez-vous comment on fait pour définir ça au Canada?
Pas en tout.
Non?
Aucune idée.
En fait, il s'agit uniquement du taux d'humidité dans le fromage.
Ça n'a rien à voir avec la densité.
Ça n'a rien à voir avec le toucher, ça n'a rien à voir avec le goût, ça n'a rien à voir avec la densité, comme tu dis. C'est une pâte fraîche, ça contient plus de 80% d'humidité. Pâte molle, de 67 à 80% d'humidité. Semi-ferme, de 62 à 67. Et ainsi de suite, on s'en va jusqu'à la pâte persillée, ou plus communément appelée le bleu, qui est très inférieur.
C'est génial, ça. Voilà.
Savez-vous qu'est-ce qu'un fromage fermier? On entend souvent ça.
Quelque chose de...
Moi, je me disais qu'il était fait à la ferme, non?
Oui, artisanal.
Parce qu'on, ben c'est ça, on parle souvent d'un fromage fermier versus un fromage artisanal versus un fromage industriel. Ben c'est simple. Le lait utilisé pour ce fromage provient du cheptel d'une seule ferme et qui est transformé en fromage sur les lieux mêmes par l'éleveur. Et lui, il va s'occuper la journée même de créer ce fromage-là. Ça, c'est le...
Okay, donc, le Alexandre Fermier dont Geneviève nous parlait tantôt, c'est ça.
C'est ça. Le cheptel est sur sur sa propriété et il va prendre le lait de ses vaches.
Et, c'est pour ça qu'il est aussi bon.
Et par contre, le fromage artisanal, la seule différence, c'est que les fromagers vont aller prendre le lait des alentours, des fermes locales ou régionales. Okay. Mais ils vont procéder de la même manière que le fromage fermier, par exemple.
Super intéressant.
Oui, en fait, c'est un livre où il donne énormément de détails sur, par exemple, sur la production du fromage, mais également sur la façon de présenter ces fromages. Mm-hmm. Est-ce que j'ai un petit peu de temps encore? Je vais vous
Savez-vous, on dit souvent qu'il faut sortir les fromages une heure avant.
Oui.
Hein, pour qu'ils soient un peu température pièce. Et puis là, je trouvais ça hyper intéressant à lire. Ça, je savais déjà cette donnée-là, mais l'été, une heure avant, ça peut être très chaud.
Oui, puis quand un fromage mou, ça, il est quasiment fondant.
Ben exact. Puis, ouais. Alors, il suggérait que en été, d'avoir une plaque en porcelaine. On met cette plaque-là au frigidaire et on sort les fromages et ça permet de tempérer davantage les fromages.
Voilà, je me suis créé un besoin.
Voilà, voilà. Tu vas aller donc, chercher toujours, ta plaque
toujours,
de porcelaine.
Toujours une heure avant, en fait, mais sur une plaque de porcelaine qu'on a mis au frigo avant, c'est ça?
Oui, exactement, exactement.
Ah, c'est bon.
Ça permet de ne pas avoir une belle flaque de fromage à la fin de ta soirée. Mmh. Ben, peut-être pas à la fin, là, mais...
15 minutes après.
Alors,
Jean-François, pour être plus précis, quand tu parles d'été, c'est de quelle date à quelle date? De mi-juillet au 15, quelque chose comme ça?
Mi-juillet. Oui. Bon. Alors, merci. C'est quoi cette question-là comme ça?
Jean-François, est-ce que tu peux juste nous rappeler le nom du livre de Yannick Hachim?
Oui, je vais vous... les deux sont... Une, c'est Annick et l'autre, c'est Yannick. Annick, c'est Mordu de fromage de Annick Dumontet aux éditions La Semaine. Et l'autre, c'est Les fromages, l'art de choisir, de présenter et de déguster de Yannick Hachim chez l'éditeur québécois Marcel Broquet.
Camembert, sa nectaire, sa polaire, Sumatra, roux de brie, tête de moine, mimolette, boursin, avec 60% de matière grasse.
Mon Dieu, je pensais qu'il parlait de moi à la fin.
Qu'est-ce que c'est ça? Christine!
On écoutait François Morel avec la chanson Les fromages. Est-ce que je vous ai fait rire un peu?
Oui. Beaucoup.
Ma semaine est faite.
Est-ce qu'on la réécoute?
Camembert, sa nectaire, sa polaire, Sumatra, roux de brie, tête de moine, mimolette, boursin, avec 60% de matière grasse.
J'avais juste une image de toi, Geneviève.
Mais oui, mais ça en fait plus à aimer, hein?
Alors, à chaque année, le concours sélection Casus permet de récompenser le travail des artisans québécois. Chaque année, les fromagers du Québec sont invités à soumettre à la compétition leur plus belle réalisation. Il y a 27 catégories et le prochain Casus a lieu le 14 octobre prochain en web diffusion. Tout le monde est invité. Vous pouvez vous inscrire via leur site web pour vous assister à la diffusion de la sélection Casus 2020. Ben voilà, vous entendez la petite musique. Oh. J'espère qu'on vous aura fait voyager autour des fromages du Québec. C'est déjà la fin de ce cabaret. Il reste quelques minutes pour faire un tour de table. Mais avant, si vous aimez le cabaret des acolytes, n'hésitez pas à ajouter quelques commentaires sur les différentes plateformes. On est sur Apple, sur Spotify, sur Google et sur plein d'autres plateformes. Donc, n'hésitez pas. Visitez également notre page Facebook. On le dit en entrée d'émission, facebook.com/lecabaretdesacolytes. Et vous avez écouté ce podcast jusqu'au bout. Si vous m'entendez, c'est sûrement le cas. Donc, allez faire un pas de plus et allez aimer notre page Facebook. Juanito, un petit mot pour la fin?
Oui, moi, je vote pour Tipout dans l'histoire de la poutine.
Tipout!
Et toi, Geneviève, un petit mot?
Oui, alors, je renchéris avec toi que c'est important de bien chambrer les fromages pour découvrir leur plein potentiel d'arômes. Et je termine en disant, dans le fond, une vie sans fromage est une vie sans soleil.
Oh! Ah,
c'est vrai.
Et toi, Christine?
Moi, j'ai toujours beaucoup de plaisir autour de vous, les acolytes. Et pour la période qui se présente, là, période un peu cheesy qui se présente, on va penser à des phrases de fromager pour se faire rire ou sinon une petite danse en ligne, en bulle.
Mm-hmm. Merci. Janelle, toi, un petit mot pour la fin.
Deux choses. Assurément, je vais tester la boutique en ligne de la fromagerie Roy pour le fromage en crotte que Patrick a mentionné sur notre page Facebook. Et je vous invite, les acolytes, à aller écouter la playlist Dance Floor de fromage sur le Dance Floor sur Spotify. Oui, oui. C'est une playlist qui existe.
Fromage sur le Dance Floor.
Fromage sur le Dance Floor. Où il y a la playlist fromage, tout simplement. Oui.
Ben, je vous remercie. Ce podcast est une production de Fort Talent Conseil. On participé à cet épisode Janelle Touchette, Christine Gélina, Geneviève Proux, Juan Blasco. Mon nom est Jean-François Gélina et on se laisse la gang sur cette réflexion. On ne trouve que du fromage gratuit que dans les pièges à souris.
Oh!
Bonne semaine tout le monde!